Et on parle de jardinage, de potager, de verger sur CFM Radio dans Plantes, Histoire de Plantes avec Rémi Culic du Jardin des Merveilles de Vaour. Salut Rémi.
Salut, bonjour à tous.
Aujourd'hui au programme Rémi, il sera question des travaux du moment et actuellement il y a beaucoup de choses à faire si on le souhaite dans son jardin. Si on veut que son jardin soit productif, c'est un peu un moment incontournable, on peut dire ça comme ça, car on vient de passer les saints de glace, les fameux saints mammaires, saints Pancras, Saint-Boniface. Tu nous rappelles déjà pourquoi, Rémi, le passage de cette période est très important pour des jardiniers.
Déjà, bravo pour retenir les noms des trois saints de glace. Bah, c'est vraiment une période où, traditionnellement, on se dit que c'est à partir de là qu'il n'y a plus de risque de gelée. Je ne saurais pas dire pourquoi c'est ces trois-là qui ont été retenus. J'imagine qu'il y a une histoire.
Une histoire ancestrale.
Voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est jusqu'à cette période, jusqu'au mois de mai, où on fait vraiment attention aux gelées. Et normalement, à partir de là, il n'y a plus trop de risques. Donc, il y a pas mal de choses qu'on peut déjà planter avant. Par contre, c'est sûr qu'à partir de là, c'est presque sûr, plutôt, je dirais qu'à partir de là, on peut tout planter, les cucurbitacées qui sont fragiles, les basiliques qui sont très fragiles, les tomates, tout ça, faut pas que ça prenne un coup de froid, donc à partir de là, on peut tout semer, on peut tout planter, il n'y a pas de risque.
Donc,
ou
y a presque,
j'insiste bien
risque,
sur ce presque,
ouais, parce que... Il peut y avoir des gelées tardives. Ouais.
Juste une anecdote, moi j'ai eu le 27 mai, il y a quelques années, moins 2 sous serre, donc moins 3, moins 4 à l'extérieur. Alors c'est très rare, très exceptionnel, moi en 15 ans de métier, ça m'est arrivé une fois. Mais voilà, il suffit d'une fois pour qu'on perde tout. Donc c'était une année vraiment très difficile parce que personne s'y attendait. Mais voilà, à partir de là, normalement, on peut y aller. Mais on continue à garder un œil sur le thermomètre, sur la météo, sur le ciel, au moins jusqu'à la fin du mois de mai quand même. Ouais.
Et quand tu dis qu'on peut y aller, ça veut dire qu'on peut faire des choses en extérieur, hein, parce que normalement, en amont, pour ceux qui partent des graines, on peut déjà planter sous serre, à l'abri, à l'intérieur, des pieds de tomates qui ont déjà poussé et que maintenant... on peut planter dans son jardin potager.
C'est ça, voilà, l'idée. C'est ça. C'est à partir de là qu'on peut faire des choses à l'extérieur, sans trop s'inquiéter. Mm-hmm. Bien sûr que si on veut planter des tomates maintenant, il aura fallu les semer plus tôt. Si on veut planter, encore pire, aubergines, poivrons, piments, ça c'est très long à germer, à pousser. Ça, il aura fallu le faire à partir de janvier pour les plus importants. Mais février, mars, on peut commencer. Et là, maintenant, on plante en extérieur. On peut aussi faire des semis directs. À partir de maintenant, on peut faire des semis directs en extérieur de plantes fragiles. On peut attendre encore un petit peu, si on veut, pour les courges et d'autres cucurbitacées. Il y a des choses qu'on peut semer directement en extérieur. Mais c'est à partir de là, vraiment, qu'on peut commencer à lancer le jardin en dehors de la serre.
En dehors de la serre, ouais. Et puis bon, si on n'a pas eu le temps de faire ces semis de tomates, on peut aller sur les marchés aux plantes, les trocs de plantes qui fleurissent autour de nous pour acheter des plantes directement chez un pépiniériste, par exemple, et rentrer et mettre ces plants directement dans la terre. Là, sur les travaux du moment, on reviendra sur les semis ou en tout cas les plantations. Qu'est-ce que tu préconises plus particulièrement là aux personnes qui sont dans notre région à faire un petit travail du sol peut-être?
Alors travail du sol, mais ça je dis ça aurait été bien de le faire avant sur la préparation des zones de culture et encore je me dis en réfléchissant j'aurais préparé une autre réponse plus habituelle de ma part, c'est ça dépend. Ça dépend, mais c'est vrai que moi j'aime bien préparer mes zones de culture un petit peu en avance et pas me garder ça pour là maintenant, c'est ok, c'est bon, il n'y a plus de gelée, on peut planter. Si on se dit allez il faut planter et puis avant de planter il faut préparer la zone de culture, on n'a pas forcément le temps. Si ça a été fait avant, là il y a juste à planter et préparer la zone de culture, ça a pu être fait avant. Pour les gens qui ont des sols un peu plus argileux, on dit des sols lourds, des sols qui vont être peut-être un peu plus hydromorphes ou qui respirent un peu moins bien, avant de planter, on peut quand même y mettre un petit coup soit de grelinette sur toute la zone de culture, soit si on n'a pas le temps de faire toute la zone, au moins avec une fourche, une griffe, quelque chose, au moins aérer le sol sur la zone de plantation. Un petit, si on plante un pied de tomate, on va faire sur un rayon de 30 cm autour du plant, et pourquoi pas un petit peu en profondeur pour que la racine, autour d'elle, sur les côtés et en dessous, elle va trouver un sol aéré. Un sol aéré, ça veut dire que les racines vont pouvoir y aller plus facilement, mais ça veut surtout dire que ça va relancer l'activité microbienne et les bactéries qu'il y a dans le sol, c'est elles qui vont indirectement nourrir la plante. Directement.
Tu as parlé de grelinette, j'aimerais qu'on s'arrête quelques secondes dessus, parce que tout le monde n'est peut-être pas au fait de ce que c'est qu'une grelinette. Tu nous expliques?
Alors, on pourrait appeler cet outil l'aérobêche, mais ça a été inventé par Monsieur Grelin, et donc il a donné son nom grelinette. C'est, en gros, c'est comme une fourche, mais beaucoup plus large, avec, allez, 3, 4, 5 dents de large. Un 5 dents, ça va faire, ça va bosser sur quoi? Allez, je dirais un bon 50, 60 cm de large. Il y a deux manches. Donc, on plante la fourche, et avec les deux manches, on tire en arrière, et ça va aérer le sol. On peut l'utiliser de plein de façons différentes. Il y en a qui l'utilisent carrément pour retourner vraiment bien aérer le sol. Mais on peut juste en tirant un petit peu, aérer en profondeur sans retourner les couches, sans trop perturber le sol. L'idée, c'est vraiment d'aérer. D'où le nom classique de aérobêche.
Et l'idée aussi, c'est de ne pas aller trop bas, trop en profondeur pour ne pas perturber la nature physique du sol aussi, comme certains agriculteurs peuvent le faire avec certaines machines qui vont, malgré ce que l'on croit, causer des problèmes pour tous les micro-organismes qui vivent dans le sol.
Ouais, alors je dirais que c'est pas forcément le problème d'aller trop bas. Le souci quand on va trop profond et quand on pense vraiment à l'agriculture conventionnelle, c'est le labour, c'est le fait d'aller bas et de prendre le sol qui est très profond, ou très profond, on va dire 40 cm de profondeur, l'amener en surface, et ce qui est en surface, l'amener au fond. Et dans le sol, ben, chaque chose est bien à sa place. Il y a des bactéries en surface qui sont aérobies, qui respirent. Il y a d'autres bactéries qui sont en profondeur, qui sont anaérobies. Et voilà, il faut que chacune soit à sa place. Si on prend celle du fond, qu'on les met en surface, ben, tout d'un coup, elles ont de l'oxygène, ça les tue. Et celle de surface, au fond, elles en ont plus, elles peuvent plus respirer, ça marche plus. Mais si avec l'aérobêche ou la grelinette, on va juste aérer en profondeur, plutôt que de retourner le sol, on va juste élargir, approfondir la quantité de sol arable. Ce qu'on dit la couche arable, c'est ce que la raire va retourner en surface du sol. On va juste aérer un peu plus en profondeur sans retourner les couches. Au lieu d'avoir 20 cm de sol aéré, puis en dessous c'est pas aéré, bien on va juste aérer le sol sur 30, 35 cm. Une aérobêche, ça descend rarement au-delà de 30, 35 cm. Donc au final, on va juste augmenter la fertilité du sol, la profondeur de fertilité du sol.
Et pour ceux qui veulent peut-être se procurer une grelinette et l'occasion aussi de rencontrer pas mal de monde autour du jardinage et des produits écologiques et biologiques pour la nature, hein, on souligne qu'à la fin de ce mois, à la fin du mois de mai, là, il y a la 40e édition de Biocybelle qui se passe à Grouillet les 28 et 29 mai. Il y a énormément d'exposants, plus de 200 qui sont là dans différents champs thématiques en lien avec l'écologie et l'environnement. Et je vous le dis, hein, qu'on peut aller à Biocybelle aussi pour acheter la fameuse grelinette et revenir avec ça dans le coffre de la voiture. Je referme la parenthèse.
Je vais rajouter un truc quand même. Si, choisissez une grelinette ou une aérobêche fabriquée par un artisan, pourquoi pas. C'est plus cher, voire des fois beaucoup plus cher, mais c'est un outil qui va moins se tordre, qui va être plus
de qualité,
plus durable, meilleure qualité que celle qu'on peut trouver des fois à 30 ou 40 euros dans les jardineries et que dès qu'on tombe sur une racine ou une pierre, il y a une dent qui se tord
qui
et
c'est
foutu.
Ouais. En tout cas, Biocybelle, un très bon rendez-vous pour toutes les personnes qui s'intéressent aux thématiques d'écologie, d'environnement aussi. Il y a énormément de choses qui s'y passent, non seulement des exposants qui sont là, mais il y a aussi des conférences qui nous intéressent à tout un tas de sujets en lien avec la nature. Donc ce sera le 28 et 29 mai, c'est à Grouillet dans le parc de la Bousquetarée, des hectares et des hectares dédiés vraiment à ces thématiques, et en plus c'est gratuit. On revient sur notre thème du jour, donc les travaux du moment. On peut passer comme ça un petit coup de grelinette ou d'aérobêche, mais aussi il faut faire gaffe à quelque chose, on va dire que l'alternance pluie-soleil n'aide pas forcément, c'est l'enherbement. Comment est-ce que toi tu gères cet enherbement, Rémi?
Ouais, ça, on a une année assez, il n'y a pas plu beaucoup cet hiver, mais on a un printemps là où il y a beaucoup de pluie, c'est pas évident. Bah, il y a plein de façons de le gérer. Je dirais, allez, dans l'ordre de ce que je préfère au moins ou par quoi je commence, mais ce par quoi je préfère finir, je dirais après. Mais paillage, au moins couvrir. Donc, si on aère la zone, c'est plus facile une fois que le sol est aéré d'enlever les racines de chiens dents, de potentilles et de tout ce qui peut gêner un petit peu. Et une fois que c'est bien propre, bien désherbé, pailler avec de la paille, du foin, de la tonte d'herbe, attention parce que ça se décompose très vite, de la laine de mouton, j'ai déjà essayé aussi, bon il y a plein de matériaux pour pailler, mais le paillage il va finir par se décomposer, c'est pour ça que c'est pas forcément mon préféré, ça va se décomposer, puis une fois qu'il n'y en a plus, l'herbe revient. L'idée c'est d'occuper l'espace avec autre chose que ce qui pourrait nous gêner. Ce qui va gêner, encore une fois, potentille, chien d'âme, chez moi en tout cas, c'est les pires. Bah, si on met un couvert végétal, si on met des cultures bien, bien denses, en couvert végétal, il peut y en avoir plein. Hein. En jardin forêt, on peut mettre du fraisier, on peut mettre des trucs un peu plus gros comme, pourquoi pas, de la rhubarbe, de l'artichaut. Donc, couvre-sol, c'est pas forcément des plantes très basses, c'est juste des plantes qui vont faire du feuillage assez épais. Mmh. La consoude, c'est génial. Faire attention, des fois, des plantes vivaces, une fois qu'on les met, on s'en débarrasse plus, donc faut faire attention. Mais voilà, une fois qu'on arrive à occuper l'espace avec quelque chose, avec une plante qu'on a choisie, ben, les autres sauvages hein, qui pourraient être gênantes viennent un petit peu moins.
Et en plus, là, je fais le lien avec une précédente chronique qui portait sur les engrais verts.
Et oui,
là,
j'ai pas dit ça.
On peut aussi planter des plantes comme celle-là qui vont nous servir aussi pour la structure du sol ou même pour, on va dire, nourrir notre sol aussi et peut-être nous nourrir nous-mêmes.
Ouais, ben, complètement. Bon, engrais vert, l'objectif, c'est pas de nous nourrir nous-mêmes. Oui. Sinon, c'est plus un engrais vert. Un engrais vert, ça va être une culture, mais qui est encore une fois provisoire. Alors, si je veux vraiment dire, mes façons de couvrir le sol, par ordre de préférence, ça va être d'abord un paillage. Mais dès qu'on a le temps, on enlève le paillage, on sème un engrais vert. L'engrais vert, il va se pousser très très vite, il va nourrir le sol. On va le faucher, on va le laisser se décomposer. Il va donc en se décomposant nourrir le sol. Mais derrière, il y a toujours le sol va être à nu une fois que c'est décomposé. Donc on va finir par un couvert végétal ou par des cultures bien bien denses. Mais l'engrais vert, c'est pas pour nous nourrir à nous, c'est pour nourrir la culture qui nous nourrira derrière.
Bon, terminons par, on va dire, une petite parenthèse d'anticipation. Là, il y a une sécheresse qui est annoncée, voilà, bon, qui est déjà effective hein, malgré les pluies qui tombent en ce printemps. Mmh. Mais il y a une sécheresse qui est aussi anticipée. Là, dans les travaux du moment, qu'est-ce que l'on peut faire pour anticiper un été peut-être trop sec?
Bah alors déjà, si on est dans une zone ou si on a un jardin, un projet sur lequel on n'a pas beaucoup de réserves d'eau, bah je dirais peut-être. Tant pis, faire l'impasse sur quelques cultures ou sur certaines quantités de cultures, pas faire trop de melons, pastèques, hein, tout ce qui est grosses courges, tomates, aubergines, ça c'est des cultures qui demandent pas mal d'arrosage. Faites-en, mais n'en faites pas trop. Si vous pensez qu'à un moment vous pourrez plus les arroser, vous allez les perdre, c'est dommage. Donc peut-être limiter les quantités, regrouper les quantités, et ensuite, ben, travailler sur la capacité de rétention en eau du sol, et ça, ben, c'est matière organique à fond. Donc, le paillage qui, en se décomposant, va faire un petit peu d'humus. Ramener du compost, pourquoi pas. Du compost de feuilles mortes, du BRF, ça aussi, ça va créer de l'humus. C'est faire monter le taux de matière organique du sol pour que derrière, ça puisse tenir. Mais en amont, on aurait pu voir aussi qu'est-ce qui fait que le jardin s'assèche plus. Et ben, ça va être le vent chaud et sec pendant l'été. Donc, planter des haies autour du jardin. Mais ça, c'est trop tard pour le faire maintenant. Mais ça permet quand même d'y réfléchir. Et
pour l'année prochaine aussi.
Pour les prochaines années, ouais.
Allez, on renvoie les auditeurs hein, vers les précédentes chroniques aussi, où il a été question notamment d'ombrage dans le jardin. Ça peut donner quelques idées à celles et ceux hein, qui réfléchissent sur le long terme pour leur jardin potager à la maison ou dans des jardins, on va dire, participatifs communautaires. Plante histoire de plantes à retrouver en podcast hein, sur cfmradio.fr. Il y a tout un tas de chroniques qui peuvent vous intéresser si vous avez la main verte ou pas forcément. L'idée, c'est de verdir vos mains et vos oreilles aussi sur CFM Radio grâce aux précieux conseils de Rémi Kulik, jardinier permaculteur. Merci beaucoup Rémi.
Avec plaisir, à bientôt.